Et c'est vrai que la science s'intéresse en ce moment à ce sens qui a été longtemps délaissé par la recherche, le toucher. La découverte récente de neurones spécialisés dans le toucher affectif a ouvert une voie sur la compréhension de notre peau en tant qu'organe émotionnel. Et les pouvoirs du toucher sont innombrables, on va le voir ensemble. Ils ont un rôle social, ils diminuent la douleur et l'anxiété. Le toucher peut guérir et c'est aujourd'hui le dossier de la Tête au Carré. En partenariat avec nos confrères de Cerveau et Psycho, je vous présente mes invités dans un instant. La vie est-elle née au fond des eaux? De nouvelles traces viennent d'être trouvées dans le manteau océanique. Axel Villard, bonjour.
Bonjour, et c'est une information, Mathieu, tout juste sortie de l'eau. Des scientifiques ont trouvé encore une fois des bactéries là où personne ne les attendait. On en parle dans un instant avec les découvreurs et vos questions sur Twitter.
Stéphanie Texier est aux commandes de cette Tête au Carré qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le toucher, un sens à découvrir. Dossier dans un instant avec mes invités, le philosophe Bernard Andrieux, le psychologue Jacques Fischer-Locou et Sébastien Bollaire pour Cerveau et Psycho. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Bernard Andrieux. Est-ce qu'il faut qu'on réapprenne à se toucher aujourd'hui dans nos sociétés, même avec les mains moites?
Même avec les mains moites, on doit se toucher. Oui, c'est à la fois un rituel social, mais aussi, comme on va le voir, une dimension affective, une dimension de l'empreinte, une dimension du contact qui est nécessaire pour se réapproprier son propre corps et aussi développer l'intercorporéité.
Jacques Fischer-Locou, est-ce que le toucher peut être considéré comme une forme de communication?
Oui, c'est une forme importante de communication puisque c'est un indicateur de communication aux autres. C'est un indicateur en plus parallèle aux autres formes de communication puisqu'on peut parler et se toucher ou pas. Mm-hmm. C'est un indicateur puisqu'on peut transmettre d'autres informations sur par exemple son statut social, etc.
Sébastien Bollaire, la grande découverte, hein, c'est que nous avons donc des fibres nerveuses qui sont spécialisées dans la perception du toucher.
Oui, alors on a longtemps cru que notre capacité de prendre des objets, de sentir notre environnement, c'était finalement, vous savez, ces neurones qui sont connectés à notre cortex sensoriel, qui font qu'on peut savoir si on appuie plus ou moins fort sur un objet, si c'est plutôt rêche, plutôt piquant. Et on a découvert qu'il y a une classe de fibres neuronales particulière qui est spécialement dédiée aux émotions du toucher. Donc pas seulement le côté, mesurer la taille d'un objet et son poids, pas sentir la pression d'un objet, sentir la charge affective véhiculée par le toucher. Il y a une classe de neurones qui est spécialisée pour faire ça. Et ça, c'est très fort, parce que quand vous avez un type de cellule particulier qui existe et qui remplit une fonction unique, ça suggère qu'il y a un câblage vraiment qui a été sélectionné par l'évolution, qui remplit un rôle très important.
Allez, on se retrouve dans un instant pour en discuter. Questions et messages des auditeurs sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. La vie sur Terre est-elle apparue dans le manteau océanique? Des micro-organismes ont été trouvés dans des roches extraites du fond des océans. C'est à la une de la science aujourd'hui pour évoquer ce qui pourrait confirmer une hypothèse longtemps débattue. Bonjour Bénédicte Ménez. Allô.
Bonjour,
vous êtes professeur à l'université Paris Diderot et on a un petit décalage visiblement avec le téléphone, mais on vous entend bien. Vous êtes en ce moment même en Allemagne, à la Carothèque de Brême, en train d'analyser des roches fraîchement extraites du fond de l'Atlantique. Et puis également avec nous par téléphone, Sylvain Bernard, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut minéralogique de physique des matériaux et de cosmochimie. Bénédicte Ménez, parlez-nous de cette mission d'abord Atlantis, menée par un consortium européen pour les forages océaniques, et donc de ces roches sur lesquelles vous travaillez. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial?
En fait, ce sont des roches qui sont exhumées du manteau terrestre et on a cherché à les forer parce qu'elles sont capables de produire de l'hydrogène quand elles rentrent en contact avec l'eau. Et cet hydrogène, en fait, peut s'associer avec du carbone d'origine minérale pour peut-être former des composés organiques. Et ces composés organiques sont d'un intérêt tout particulier pour nourrir les écosystèmes profonds qui habitent dans ces roches et dont on cherche encore à explorer l'extension.
À quelle profondeur vous avez trouvé justement ces organismes?
Alors, les forages qui ont été faits dans le cadre de cette expédition ne sont pas très profonds puisqu'on a préféré multiplier les sites de forage pour en voir les variabilités latérales. Mais on imagine que cette vie pourrait coloniser jusqu'à plusieurs kilomètres, les premiers kilomètres du manteau hydraté qui est exhumé au fond des océans.
Et donc, vous avez foré à peu près à quelle profondeur?
Alors dans le cadre de cette campagne précisément, on a foré jusqu'à 15 mètres et donc on a eu accès à ces roches mantelliques que la tectonique donc met à disposition de nos recherches au fond des océans par le biais de grandes failles horizontales.
Et en profondeur au fond de l'eau, ça fait entre 1500 et 3000 mètres de profondeur, je crois.
Oui, tout à fait. On était, et le massif Atlantis, en fait, sur lequel on a foré, c'est une montagne. Il faut vous imaginer que vous avez les Alpes sous vos pieds quand vous êtes à la surface de l'eau. Et c'est donc une montagne qui fait 4000 mètres de hauteur. Et donc, en fonction des endroits où on a foré, on était entre 850 et 2000 mètres d'eau.
Sylvain Bernard, en quoi est-ce surprenant de trouver des bactéries encore dans des roches qui proviennent du manteau terrestre ?
Parce que dans le manteau terrestre, les conditions pour que la vie se développe ne sont pas du tout réunies. Il fait très chaud, il n'y a pas du tout d'oxygène, il n'y a pas du tout d'eau liquide. Là, c'est un contexte assez particulier parce que c'est des endroits où le manteau terrestre affleure à la surface des fonds océaniques. Et comme le disait Bénédicte, c'est un endroit à la surface de la Terre où on a production à la fois de méthane et à la fois d'hydrogène qui peuvent être utilisés par des micro-organismes comme source d'énergie pour se développer et donc pour tout un écosystème, pour que tout un écosystème puisse se développer.
Est-ce que ça veut dire que la vie a pu quand même émerger de ces entrailles ?
Alors, la vie n'a pas forcément émergé dans le manteau, mais par contre, elle a pu apparaître à ces niveaux, à ces endroits un peu particuliers que sont ces montagnes sous-marines, là, au niveau des dorsales, au milieu des océans. Maintenant, c'est une des hypothèses qui existe depuis qu'on a découvert ces systèmes hydrothermaux dans les années 70, et puis plus récemment, ces systèmes que sont Lost City, qui sont un peu différents depuis les années 2000. Mais il nous manque encore le cadre conceptuel, c'est-à-dire qu'on sait que tout un écosystème peut se former à ces endroits-là, mais on ne sait pas si la vie peut apparaître uniquement à partir du monde minéral, à ces niveaux-là.
Donc c'est toujours la même question, est-ce que la vie a colonisé ces roches ou est-ce que la vie est née à l'intérieur de ces roches ?
Donc voilà, c'est toujours la même question et c'est une question compliquée parce que à nouveau, on a comme difficulté que c'est très compliqué de différencier du carbone biologique d'un carbone qui peut être produit complètement abiotiquement, c'est-à-dire à partir de réactions purement minérales. Et donc ces environnements-là sont très intéressants à étudier parce qu'ils peuvent nous apporter de nombreuses informations et améliorer notre connaissance, notamment dans cette différenciation entre le vivant et le non-vivant.
Bénédicte Ménez, est-ce qu'on peut imaginer qu'on trouvera à l'avenir des traces de vie encore plus profondément dans ce même manteau ?
Alors, c'est effectivement un des objectifs, c'est de définir l'habitabilité de ces environnements, puisque derrière ce terme d'habitabilité se cachent des notions de compatibilité du vivant avec des températures, des pH. Donc, ce qu'on cherche à explorer, c'est vraiment l'extension en profondeur et latéralement de ces écosystèmes, puisque certains suspectent qu'ils pourraient être on pourrait avoir beaucoup plus de carbone et de vivant au sein de ces roches qu'on en a à la surface de la Terre. Donc pour les bilans qu'on cherche à faire au niveau de notre cycle du carbone et puis l'extraordinaire diversité que ces micro-organismes peuvent avoir, on a devant nous un territoire entier à explorer.
Est-ce que vous allez pouvoir étudier l'ADN de ces bactéries particulièrement ?
Oui, tout à fait. En fait, ça a été une des spécificités de cette mission qui avait des objectifs effectivement en microbiologie en plus de ceux en sciences de la Terre de type tectonique. Et donc, lors de la campagne en mer, tout l'ADN a été extrait. Nous allons caractériser les gènes pour essayer de comprendre quel genre de micro-organismes habitent là et ce qu'ils sont capables de faire avec les ressources d'énergie qu'ils ont, les éléments qui forment cette roche, pour savoir s'ils se nourrissent plus de carbone issu de la circulation des eaux des océans ou si, effectivement, ces molécules organiques dont parlait Sylvain tout à l'heure sont capables et sont à l'origine de leur développement et de leur prolifération. Et si cette diversité de composés organiques est vraiment la marque de fabrique et ce qui va donner son empreinte à tous ces écosystèmes-là.
Alors Bénédicte Ménez, vous êtes en train donc de trier vos échantillons en ce moment à la Caroteque de Brenne. Il n'y a pas encore de publication sur ces infos que nous sommes en train de donner en ce moment à la Tête au Carré. Pourquoi justement est-ce que vous avez déjà communiqué ?
Alors, on a pour l'instant que des évidences indirectes, c'est vrai. Donc, certaines publications de ces dernières années nous donnent des preuves. On suspectait effectivement la présence de ces micro-organismes par les traces qu'ils auraient pu laisser sur les minéraux. Là, c'est le fait que cette annonce soit faite si tôt découle des derniers résultats qu'on a accumulés ces dernières semaines, à savoir localement, tout au long du forage, la détection d'hydrogène et de méthane, donc des composés qui seraient intéressants comme source d'énergie et de carbone pour les organismes. Et puis à cela s'ajoute le fait que les échantillons qui ont été collectés lors de la campagne en mer en novembre ont été mis en culture, enrichis, et il y a déjà des organismes très spécifiques qui ont poussé et qui se sont redéveloppés. Donc on imagine qu'effectivement ils étaient dans la roche quand on les a collectés et qu'il ne restera plus qu'à essayer de les caractériser pour en savoir plus.
Est-ce que vous avez pu remonter des organismes jusque-là inconnus ou pas, hein, qui fera l'objet de publications étonnantes dans les semaines ou mois qui viennent?
Alors c'est encore trop tôt pour le dire, parce qu'effectivement toutes ces expériences prennent du temps, et puis on va avoir une phase de travail au Japon pour essayer de cette phase de caractérisation de toutes les molécules type ADN, tous les gènes. Mmh. Donc je pense qu'il va nous falloir un certain nombre d'années, et dans l'année qui vient on va être très occupé, puisque c'est celle qui va être vraiment dédiée à cette expédition.
J'imagine.
Pour s'attaquer à ces questions.
Merci Bénédicte Ménez. Merci à vous Sylvain Bernard également. Merci. Pour votre éclairage qui vient là aussi alimenter abondamment les discussions sur les origines de la vie sur Terre. Excellent.
On continue de creuser.
Merci beaucoup. À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les plus petits des caméléons ont aussi les langues les plus rapides. Des scientifiques américains ont calculé que la langue des Rampholéon Sinopsus pouvait en effet accélérer de 0 à 96 km/h en 1/100 de seconde. Une puissance record expliquée par la tension préalable des tissus élastiques de leur langue, un peu comme lorsqu'on tend un arc, une préparation qui démultiplierait la force de leurs muscles. Avec une telle vitesse, ce caméléon Rampholéon Spinosus peut seulement mettre 20 millisecondes pour attraper un grillon situé à environ une quinzaine de centimètres de sa bouche. Les orques sont obligés de s'égosiller pour communiquer lorsque les gros bateaux sont à proximité. Des scientifiques américains ont procédé à des mesures sonores dans l'Atlantique Nord pendant 28 mois. Ils savaient déjà que les bruits des bateaux perturbaient les communications entre les orques, car les fréquences émises par les moteurs sont les mêmes que celles de leurs cris les plus communs. Mais pour la première fois, les chercheurs ont mesuré directement des conséquences de cette perturbation. À chaque passage de gros bateaux, les cris des orques deviennent plus puissants et répétés, comme s'ils avaient du mal à se comprendre entre eux. Ils préconisent maintenant que les bateaux les plus gros soient équipés de sourdines, comme il en existe dans l'armée, pour limiter ces gènes. Et puis encore de belles images de la planète naine Cérès. La sonde Dawn de la NASA nous transmet au compte-gouttes des clichés de plus en plus impressionnants du plus gros corps non planétaire du système solaire, situé entre Mars et Jupiter. Une vidéo nouvelle de la basse orbite de Cérès permet maintenant de distinguer la montagne Auna Mons, brillante et en forme de pyramide, ainsi qu'une série de points lumineux que les chercheurs assimilent à des selles qui réfléchissent la lumière du Soleil. Des mondes nouveaux et inconnus à découvrir là en vidéo sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, les pouvoirs du toucher, c'est le dossier dans un instant. Promised everyone you'd never come back. A present feelings in a tear. You struck me half like a stab in the back. Oh my darling, oh my. It used to burn me when the pendulum rung. You fade as you talk to love. Rover, Call My Name.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et le sens du toucher, c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi avec nos confrères du magazine Cerveau Psycho. Pour en parler, Bernard Andrieux, vous êtes philosophe, épistémologue du corps et des pratiques culturelles et vous avez publié « Toucher, se soigner par le corps ». C'était aux Belles Lettres en 2008 et puis plus récemment « Malade, encore vivant » aux éditions Le Murmure. Jacques Fischer-Locou, vous êtes enseignant-chercheur en psychologie, spécialiste des effets sociaux du toucher. Et puis Sébastien Boller, vous êtes donc le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho qui publie un grand dossier sur la force du toucher dans votre dernier numéro qui vient de paraître, avec les questions des auditeurs qui arrivent déjà sur le site de l'émission. On se retrouve sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Sébastien, cet éclairage sur le toucher que vous proposez donc dans Cerveau Psycho, c'est quoi? C'est une façon de réhabiliter d'abord ce sens trop souvent délaissé dans nos cultures, en nous montrant ses bienfaits et les dernières découvertes?
Tout à fait. Il s'agit de le réhabiliter, puis en fait de le découvrir, parce que il y a beaucoup de découvertes toutes récentes sur comment fonctionne notre toucher. Et qui vont tout ensemble. Alors, il y a des chercheurs en neurosciences qui découvrent l'existence de ces fibres dont on parlait, qui véhiculent le toucher émotionnel. Il y a des spécialistes de l'évolution. Il y a des gens qui travaillent en milieu hospitalier sur les effets des massages. Et tout ça s'imbrique très très bien ensemble. On s'aperçoit que le toucher est sans doute un des sens les plus essentiels pour notre vie sociale, en fait. Oui. Et qu'il plonge sans doute ses racines dans notre passé évolutif très lointain.
Ouais, le toucher, donc, Bernard Andrieux, un sens indispensable dès les premières heures de la vie.
Oui, dès les premières heures de la vie. En fait, le toucher, ça atteint ce qu'on appelle le corps vivant, bien avant qu'on ait conscience de notre corps vécu. Finalement, on a des empreintes, on en parlait l'autre jour sur les prématurés. On sait que tout ce qui est isolement sensoriel, tout ce qui est séparation finalement du corps de la mère, et fait que finalement il y a une privation. Voilà, il y a une privation qui peut être un déficit sensoriel, affectif, dans la construction et dans l'étayage. Et donc finalement, ce contact peau à peau, finalement entre la mère et l'enfant, c'est absolument fondamental pour pas simplement la délimitation de ce qui sera le moi plus tard, mais aussi physiquement, pour avoir le sentiment qu'il y a un dedans et qu'il y a un dehors.
Jacques Fischer-Locou, qu'est-ce que vous étudiez exactement, vous qui êtes spécialiste des effets sociaux du toucher? Alors c'est assez rare comme spécialité, vous n'êtes pas très nombreux à la pratiquer.
Oui, en fait, le toucher peut s'étudier sur plusieurs niveaux. On peut l'étudier effectivement sur le niveau physiologique, comme on vient d'en parler, mais on peut l'étudier au niveau interpersonnel. Il peut augmenter la confiance, désangoisser, etc. Et puis, il peut avoir des effets effectivement au niveau social. Il peut jouer sur des phénomènes de régulation sociale.
C'est-à-dire, vous pensez à quoi?
C'est-à-dire que, en fait, l'être humain a la disposition parfois d'utiliser certaines caractéristiques sociales pour mieux vivre ensemble. On est nombreux à vivre ensemble. On a besoin des autres pour vivre ensemble, pour mieux vivre. L'espérance de vie est plus élevée si on vit avec autrui. Donc, on a besoin de facteurs de régulation, évidemment, de nos relations. Et l'être humain a la disposition de parfois d'exploiter. Il faut savoir que dans certaines sociétés, il était interdit de toucher un dominant. C'était puni de mort. On a tous en tête, par exemple, aussi les intouchables, certaines populations qui ne peuvent pas toucher, et d'ailleurs on ne peut pas les toucher non plus. Donc voilà à quel point le toucher a des effets importants sur nos relations sociales.
Oui, et ça bouleverse totalement effectivement les rapports entre les personnes. Il y a cette question d'Agnata qui nous dit ceci, elle aimerait savoir si comme les singes, l'humain peut devenir fou du manque de contact physique. Qui veut répondre, Bernard Andrieux?
Les travaux d'Arlo sur le grasping.
Qu'est-ce que c'est le grasping?
Le grasping, c'est ce geste presque instinctif. Vous pouvez le faire aussi avec le jeune enfant, qui consiste à lui tendre un doigt et il va s'accrocher de manière quasiment spontanée. Et Arlo a montré finalement par des études sur la privation, en remplaçant par exemple le corps de la mère par des poupées en fil de fer, froid, que la question de la chaleur, la question de l'intensité, la perception finalement par la peau de ce contact faisait que les singes étaient déprimer, avoir mourir, hein, se laisser dépérir, faute précisément de ce contact. Et ça a été ces travaux d'Arlo qui datent des années 30, oui. Sont vraiment pionniers de la question de l'attachement et
oui.
du lien.
Oui. Jacques Fischer, on peut mourir par manque de contact,
hein. Écoutez, en tout cas pour les singes, c'était le cas avec Arlo, puisque les petits singes... En fait, il avait même proposé deux statues, une qui imitait donc la mère, une en métallique et une avec des poils artificiels, en fait. Mmh. Et en fait, les petits allaient directement se confronter, effectivement.
Surtout que l'armature métallique avait une tétine avec du lait, donc oui. soit ils mangeaient, soit ils attrapaient la fourrure sans manger, donc ils préféraient
la préférence. Oui, voilà,
ouais. Et malgré la fourrure, en fait, ils décédaient.
Le contact est nourrissant.
Ils ne survivaient pas.
Ouais. On va écouter un extrait des animations du Palais de la Découverte, justement, auprès des enfants. On en parle aussi aux plus jeunes, et c'est tant mieux, le toucher.
Alors, le sens du toucher, c'est pas un sens qui est très connu. Le toucher est moins étudié, donc on ne sait pas encore exactement comment fonctionnent ces récepteurs, mais voilà, on sait qu'il y en a qui sont sensibles aux pressions, et on sait aussi qu'il y en a qui sont sensibles aux vibrations. Donc ça, c'est le toucher, voilà, pression, vibration, c'est surtout ça, mais vous utilisez aussi d'autres sens. Quand on est très doué au foot, on sait que j'aurais dû bouger mon pied un tout petit peu comme ça, un tout petit peu comme ça, pour que la balle aille vraiment là où je veux. Donc c'est ça, la proprioception, c'est vraiment voilà, le sens qui est dans les muscles, les tendons et les articulations.
Voilà, donc Bernard Andrieux, on entend cette animatrice qui fait découvrir ce sens méconnu qu'est le toucher. Qu'est-ce qu'il y a derrière, d'ailleurs, le fait, au fond, de s'intéresser aussi peu à cet aspect de la vie
oui,
essentiel
moi, je crois qu'un des intérêts, justement, du numéro cerveau et psycho, c'est qu'on est sur un nouveau modèle. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des preuves, hein, justement, du fait que quand on touche quelque chose, on va activer... Hein, finalement quelque chose dans le corps vivant dont on n'a pas conscience, mais qui est absolument nécessaire, hein, finalement pour développer, on l'a dit tout à l'heure, la socialisation, le lien, l'attachement. Et donc finalement la peur du toucher,
c'est ça,
ce que j'ai appelé l'aptophobie, hein, finalement la peur du contact,
oui.
Elle vient du fait finalement que bien sûr dans la culture dans laquelle nous sommes, qui reste quand même une culture de la distance, hein, je pense aux travaux de Stanley Hall, hein, sur le problème de la distanciation, hein, il montre finalement que suivant les cultures, les gens vont se rapprocher, hein, de quelques centimètres, voire s'embrasser. Hein, je pense à nos collègues brésiliens où le contact est spontané, etc. Et puis d'autres, au contraire, qui vont s'éloigner et éviter absolument le toucher. Donc finalement, cette question de la distanciation fait que est-ce que je vais vivre ça comme une intrusion de mon intimité, voire de mon intégrité corporelle, parce qu'il y a toute la thématique, bien évidemment, de la violation de sa propre identité. Soit, au contraire, je vais, à travers l'expérience du toucher, justement, me livrer, activer en moi des choses qui risquent aussi de me dépasser. Hein, pensons à l'orgasme, pensons à la caresse, il y a aussi toute la dimension érotique, hein, du toucher, qui fait que finalement, c'est difficile de consentir à être touché ou à se laisser toucher, parce que ça conduit finalement à produire des choses involontaires en soi-même. Et dans le dossier, justement, on voit très bien les modalités de cette activation.
Oui, Jacques Fischer-Lecoux, vraiment le toucher culturel, au fond, on le voit, entre les anglo-saxons ou les latins, effectivement, le rapport au corps n'est pas du tout le même. Hein.
Oui, alors même pour nous, dans notre société, pour reprendre les mots de Bernard Andrieux, c'est vrai que c'est une société très aseptisée de plus en plus. On est nombreux à vivre en ville, et en fait, on a besoin effectivement de codes. Lorsque l'on commence à toucher, eh bien, c'est tout bénéfice pour tout le monde, puisque en fait, c'est une clé magique qui permet d'ouvrir, encore si on connaît les codes, parce qu'il faut éviter de toucher dans certaines situations ou pas, mais effectivement, cela permet de passer d'un monde à un autre, de passer du monde du formel, donc dont parlait Bernard Andrieux, à l'informel, donc pour reprendre ces mots, du distant à l'intime.
Sébastien Boller.
Sur les différences culturelles, effectivement, hein, y a même une théorie climatologique, je crois, des différences culturelles, qui regroupe un peu les clichés qu'on a sur le fait que dans les pays anglo-saxons, on se touche moins, dans les pays latins, on se touche un petit peu plus. Mais c'est vrai que le toucher, si on reprend les réflexions sur l'apparition du langage, notamment par un anthropologue qui s'appelle Robin Dunbar, très intéressant, parce qu'il explique que effectivement les singes meurent parce que quand ils ne se touchent plus, parce que c'est leur mode de communication privilégié. Ils passent des heures par jour à s'épouiller, à se toucher. Et les singes s'identifient les uns les autres au prix de ces heures passées à s'épouiller. Ouais. Et Robin Dunbar a pu apporter un certain nombre d'éléments très probants qui laissent penser qu'en fait, dans l'espèce humaine, on a arrêté progressivement de s'épouiller pour se parler. Le langage a remplacé le toucher et a produit effectivement des constructions théoriques, intellectuelles immenses, et puis à l'échelle de millions de personnes, parce qu'on peut pas toucher des millions de personnes, sauf par des mots justement, donc c'est son idée. Mais quand on en fait trop par le langage, on oublie un petit peu peut-être cette nature profonde qui reste, parce que ces neurones n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Mmh. Et donc si on ne les stimule pas, il y a toute une partie de nous, et le premier organe du corps, c'est la peau, hein. En poids, je crois que c'est plus de 20% le derme du poids du corps. Quand on prend toute l'épaisseur du derme, c'est une très grosse fraction du poids de notre corps. Et on ne peut pas se permettre de laisser ça en friche.
Alors, parlons-nous et touchons-nous en même temps. C'est pas incompatible, voilà. Pendant qu'on écoute Dionysos, vampire de l'amour, justement.
Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre je pars en confetti.
Vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre je pars en confetti.
La force du toucher, aimer, soigner, communiquer, c'est à la une du numéro 74 de février de Cerveau et Psycho avec son rédacteur en chef Sébastien Boller et puis Jacques Fischer-Locou qui est avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste des effets sociaux du toucher et Bernard Andrieux, philosophe des pratiques culturelles justement, avec un téléphone qui est en train de sonner mais qu'on va couper dans un instant. Beaucoup de messages des auditeurs pour Bernard Andrieux. Marie-France nous dit ceci. Quelle relation est-ce qu'on peut établir entre le toucher et la cognition?
Oui, disons que le problème justement, c'est les différents niveaux d'activation dans le corps. Hein. Nous, ce qu'on essaie de faire en philosophie du corps aujourd'hui, c'est de distinguer peut-être trois types de toucher. On va dire un toucher dont on va parler dans quelques instants, justement, qui est un toucher plutôt inconscient dans son impact. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire il y a un impact dans le corps vivant, dans la vie affective, qui n'est pas forcément conscientisé. Voilà. Ensuite, il y a un toucher, comme on le disait à l'instant, c'est-à-dire conscient, c'est-à-dire un toucher finalement où là, je vais être volontairement en train d'agir avec une intention, hein, pour désigner un but ou attraper un objet ou voir atteindre autrui. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'instruments qu'on voit justement dans le numéro de Cerveau et Psycho qui nous permettent de décrire finalement d'objectiver, hein, de voir quels sont les effets objectifs à travers des mesures, oui, hein, d'activation et d'intensité. Et ça, aujourd'hui, c'est tout à fait possible avec la multiplication des capteurs.
Alors ça, justement, c'est l'apport des neurosciences, hein, Sébastien Bollard. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses dans ce domaine, avec donc la compréhension du pouvoir émotionnel du toucher via, justement, ces fibres nerveuses. Vous l'expliquiez un petit peu tout à l'heure. On peut rentrer un peu dans les détails, Sébastien, pour comprendre comment ça fonctionne.
C'est important, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle du toucher, on confond un petit peu tout. Si je dis je touche cette table ou je touche ce stylo, j'utilise effectivement des fibres qui sont connues depuis très longtemps, des neurones qui s'appellent des fibres de type A, qui ont une fonction pratique, en fait, hein, pour agir sur notre environnement. C'est rien d'émotionnel, c'est pour savoir où notre corps se situe, pour voir quels objets on déplace, comment on les déplace. Mais plus récemment, on a découvert un autre type de fibres tactiles qu'on appelle les fibres de type CT. T pour tactile, fibre CT, voilà. Et ces fibres-là, elles sont très, très différentes des fibres A, parce que les fibres de type A, elles conduisent l'information très très vite. C'est-à-dire que si vous piquez avec un clou, c'est une fibre de type A qui réagit instantanément. Mm-hmm. L'influx nerveux se propage de votre pied qui a marché sur le clou jusqu'à votre cerveau à la vitesse d'un TGV. Hein. Donc c'est 100 mètres par seconde, c'est instantané. Mais ces fibres tactiles, elles réagissent beaucoup plus lentement, à la vitesse d'un mètre par seconde. L'influx nerveux met un petit peu de temps pour arriver jusqu'à votre cerveau.
Mm-hmm. On imagine la caresse, par
mais
exemple.
Mais voilà, c'est la caresse, exactement. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça se propage plus lentement? C'est parce qu'elles sont dépourvues de cette gaine de myéline. Vous savez, la myéline, c'est une espèce de gaine graisseuse qui entoure les neurones et qui accélère, en fait, l'influx nerveux. Alors, elles, comme par un fait exprès, elles sont dépourvues de cette gaine de myéline et elles conduisent l'information beaucoup plus lentement. Il faut le temps que ce toucher s'installe. Et on a découvert, en plus, qu'elles sont activées quand on caresse la peau, donc quand on stimule la peau par un glissement à une vitesse très précise de 5 cm par seconde. C'est-à-dire que si vous caressez trop vite,
ouais, ça marche pas.
À 15 mètres par seconde,
ça marche pas de la même manière.
Une technique érotique à développer.
Voilà, il faut devenir scientifique de la caresse. Et ou trop lentement, ça marche pas non plus. Mais en fait, on le fait instinctivement. On sait une caresse, on le fait, et c'est 5 cm par seconde. Ouais. On voit qu'à ce moment-là, ces neurones déchargent très très fortement, et que le signal est adressé à une partie de notre cerveau qui s'appelle l'insula. Une partie, un repli du cortex cérébral qui centralise beaucoup d'informations sur notre état interne, l'homéostasie, la concentration en sels minéraux, la pression sanguine, tout ce qui est la sensation viscérale est concentrée par l'insula, et y compris les caresses. Donc les caresses ont une dimension viscérale, et cette partie de notre cerveau est connectée aussi à ce qu'on appelle le circuit de la récompense, donc ce qui est impliqué dans tous les plaisirs, hein, quels qu'ils soient, du sexe aux drogues, en passant par le fait de manger son plat préféré. Il y a des interactions entre la viscéralité, le plaisir et le toucher, voilà, et ces fibres-là.
Et là, on est dans ce que vous nommez, enfin dans ce qui est nommé la transmission des affects positifs, c'est ça, Sébastien?
On transmet énormément d'affects positifs, effectivement, par une caresse, par la tendresse, par les massages aussi, puisque ça, c'est un autre aspect du dossier qu'on a voulu explorer, c'est tous les effets thérapeutiques du massage, et le fait que ces émotions qui passent par des pressions sur le derme ou même musculaire, à ce moment-là, vont aussi faire libérer de l'ocytocine, qui est une hormone qu'on appelle l'hormone du lien, hein, du lien social, hein, qui est souvent en défaut aussi dans certaines formes d'autisme, et qui fait qu'on se sent appartenir au genre humain. Il y a beaucoup de patients qui sont traités comme ça au milieu hospitalier, qui vous disent qu'ils se sont sentis redevenir humains par ce contact et qu'ils n'étaient plus tenus à distance comme des objets de thérapie.
Ouais. Alors on va entendre justement, à l'occasion d'une séance d'aptonomie, un patient qui, pour la première fois, justement, va bénéficier de cette pratique. Un mot, peut-être, Bernard Andrieux, pour dire comment ça se passe, l'aptonomie, qui est destinée aux bébés, mais pas seulement. Oui. Il y a aussi des adultes, hein, qui
oui,
peuvent en faire.
Au départ, l'aptonomie, c'était effectivement pour accompagner les femmes enceintes. Hein. On faisait tout ce travail d'accompagnement tactile pour le corps, et surtout l'idée, c'était d'établir une interaction finalement entre les mouvements internes du corps, en l'occurrence le bébé, hein, et puis les mouvements externes.
Voilà donc pour cette première séance.
Allez, venez. Vous voyez, on le fait ensemble, mais c'est pas moi qui manipule. Okay. Et là maintenant, vous sentez que c'est plus libre?
Oui.
Là je peux venir, il n'y a pas de résistance comme il y avait tout à l'heure. Donc je vais amener votre jambe en dehors de la table de mon côté. Hein. Vous restez bien avec moi. Hein. Ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas dans la résistance. Hein. Vous me suiviez dans le mouvement. Hein. Ça peut tirer un peu, je vais vraiment dans toute l'amplitude de votre mouvement. Mais vous venez avec moi, vous me suivez un peu comme dans la danse. D'accord?
Alors comment le décririez-vous, vous? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Il y a quelque chose de très solaire dans la rencontre à l'autre. Il y a à la fois beaucoup de chaleur, il y a le sentiment effectivement de s'étendre comme un soleil, une sorte d'énergie comme ça, très chaleureuse, très réconfortante. Ça paraît une expérience en fait très fondamentale. On est au centre de quelque chose.
En fait, oui, c'est ça que vous dites, c'est vous devenez le centre de vous-même. Vous êtes mis au centre de vous-même et c'est très souvent que j'ai des représentations de cet ordre-là à la première séance.
Voilà, alors une pratique particulière, l'aptonomie, Jacques Fischer-Lecoux, mais on peut la commenter, élargir un petit peu avec les impressions justement de ce patient qui parlait d'une sorte de rencontre à l'autre et d'une expérience fondamentale, hein.
Oui, en fait, le toucher permet de partager des émotions. Et nous avons besoin d'émotions, dont on parlait tout à l'heure, d'émotions positives pour vivre. En fait, on ne recherche que des émotions positives, que ce soit à travers le regard, le contact, et surtout le toucher. Enfin, alors, dans notre société, le regard, il est naturel, mais le toucher, il a d'autres propriétés que le regard ou que le sourire. Puisqu'il s'adresse à une personne, il est nuançable. On ne touche pas n'importe, on peut sourire à n'importe qui, mais le fait de toucher s'adresse à une personne.
Alors justement, Sébastien Boller, il y a une sorte de carte assez amusante sur les zones du corps et les liens de parenté en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas aller partout sur le corps en fonction de l'affinité et de l'intimité qu'on a avec la personne.
Oui, alors ça c'est une étude qui est parue il y a quelques mois et justement qui a été menée, je crois, au Royaume-Uni. Où les scientifiques ont essayé de comparer ils ont mesuré en fait la surface du corps de quelqu'un que vous pouvez toucher. Oui. Alors, avec des questionnaires et des études de comportement sur des dizaines et des centaines de sujets. Et ils ont comparé ça au degré de parenté, au degré de proximité émotionnelle. Et la corrélation montrait une droite, c'est-à-dire que c'est vraiment linéaire. C'est-à-dire que plus la surface du corps que vous êtes autorisé à toucher est importante, plus on se rend compte que la personne fait partie de votre cercle rapproché.
Donc son conjoint, par exemple, sa conjointe, peut la toucher partout, a priori.
Voilà, on voit une carte qui représente l'ensemble du corps avec des codes couleurs en fonction de la fréquence où on est touché. Donc on apprend déjà des choses.
Ah bon, et alors Qu'est-ce que ça donne?
On touche beaucoup, effectivement, beaucoup sur l'épaule. Hein, c'est la première zone, le bras. Mm-hmm. Après, il y a les joues hein, chez les conjoints. Puis après, on descend sur la poitrine. Et puis... puis les jambes, et puis ensuite la partie génitale. Mais donc ça, c'est vraiment chez le conjoint. Et après, le degré de proximité suivant, c'est les enfants, évidemment, où on peut toucher presque tout aussi chez les enfants, même s'il y a quand même des zones taboues, mais c'est très proche. Et quand on se déplace ensuite sur le cercle des frères et sœurs ou des parents, là, il y a un gros saut quand même. Mm-hmm. On ne touche pas, même son frère ou sa sœur, on ne le touche pas n'importe où. On voit qu'il y a des zones qu'on ne touche pas. On ne touche pas les fesses de sa sœur ou de son frère. Voilà,
ça ne se fait pas, il faut le rappeler à cette antenne.
Et puis, plus on va avec cousin Germain, plus la carte du corps se restreint. Et après, quand vous arrivez au degré de proximité minimale qui est le quidam dans la rue, il ne reste plus que l'épaule.
Voilà, c'est l'épaule. Ce qui est à peu près tolérable.
Quand vous appelez quelqu'un, vous tapez sur l'épaule tout doucement. Ouais. Voilà,
Bernard Andrieux, c'est amusant, non? Ça dit plein de choses aussi de nos relations.
Oui, il y a aussi, je pense que tu vas en parler tout à l'heure, c'est la question du statut social aussi, de la hiérarchie et de la distance sociale. C'est-à-dire finalement, je touche les gens. Là, dans le livre justement sur la maladie, on voit la question des malades qui sont chroniques et presque mourants. Et on voit la difficulté finalement du personnel à continuer à maintenir le lien alors que le malade pose des problèmes physiques.
Il y a un témoignage d'Yves qui nous envoie ce message. Une de mes expériences les plus marquantes lors de mon long traitement post-leucémie a été simplement l'application de crème dans le dos par une aide-soignante la nuit pour adoucir les effets d'un rejet cutané. Elle avait une empathie qui passait dans ses mains. J'étais dans ma chambre protégée, isolée du monde extérieur et ces moments-là ont été un vrai bonheur.
Exactement, c'est exactement ça, c'est continuer à activer le vivant malgré tout.
Jacques Fischer-Lecoux.
Oui, en fait, c'est continuer également à activer l'intimité, ce qui fait le propre de nos relations humaines. Et on voit qu'effectivement, dans les centres pour personnes âgées, par exemple, effectivement, on a moins tendance à les toucher. On touche plus facilement des bébés, des enfants, alors qu'elles en ont besoin aussi. Et en fait, c'est un élément de souffrance supplémentaire pour ces personnes, en fait.
Et la hiérarchie à laquelle faisait allusion Bernard Andrieux, il y a eu des études aussi là-dessus.
Ah oui, il y a beaucoup d'études.
On ne touche pas son patron, évidemment, de la même manière.
Bien entendu que non.
Que son collègue.
En fait, c'est un point très important, puisque là, le toucher sert de marqueur social. C'est-à-dire, il sert de marqueur, et en fait, effectivement, il sert d'outil. Social également, puisque dans un rapport social, il y a souvent un dominant et un dominé, et le dominant peut se permettre de toucher le dominé et en fait appuyer ou renforcer une requête, donc une demande. Lorsque c'est l'inverse, lorsque c'est le dominé qui touche, c'est moins favorable pour sa personne.
Ouais.
Donc par exemple, des tas d'expériences ont montré que lorsqu'un serveur touche un étudiant, ou effectivement, il aura davantage un pourboire, mais lorsqu'il touche quelqu'un qui est célèbre, etc., effectivement, là, il aura moins de pourboire,
ouais,
parce qu'en fait, il touche quelqu'un de dominant.
Il y a des études sur la persuasion, justement, via le toucher.
Ah, il y en a...
Comment on arrive à convaincre, ou en tout cas, à aboutir plus rapidement à ses fins, selon qu'on est touché ou pas la personne.
Oui, alors justement, il y a les travaux, tous les travaux de Nicolas Guéguin, hein, du laboratoire de
Rennes,
l'Université de Bretagne Sud, oui, ouais, du laboratoire de Vannes et Rennes, le CRP2C. Donc, effectivement, il y a des applications dans le domaine du marketing, énormément. Dans un simple magasin, en fait, on sait que si l'on touche un client qui rentre dans le magasin, il passera plus de temps.
Ah bon ?
Il achètera davantage que si l'on ne le touche pas.
Ah bon ?
On sait. Alors, ça peut effectivement
le. Ça peut être contre-productif aussi, non ? On peut avoir des réactions inverses.
Bien entendu, mais en fait, on mémorise davantage aussi toujours celui qui nous a touchés. Donc, en fait, c'est pratiquement tout bénéfice.
Bernard Andrieux.
Oui, c'est une empreinte, hein. L'idée, finalement, c'est aussi stratégique, hein. C'est-à-dire que quand on lit vos travaux, et puis les travaux de cerveau psycho, on voit, s'aperçoit que, finalement, on peut avoir l'intention de créer volontairement une empreinte chez l'autre pour laisser une trace et, finalement, obtenir une récompense en retour.
Oui, il faut pas voir simplement l'aspect négatif du toucher dans le cadre de l'influence, puisque en fait un médecin, on a fait des expériences à Vannes, un médecin qui touche un patient en lui recommandant des antibiotiques, eh bien en fait cela a bien montré que le patient va davantage suivre le traitement alors que s'il n'avait pas été touché.
Oh, c'est la petite prématurée.
Ouais, elle est... Enfin, on a tout essayé. Je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un la prenne dans ses bras avant qu'elle...
Le kangourou.
Quoi?
La façon dont tu tiens le bébé, ça s'appelle la méthode kangourou. On connaît plusieurs cas où cette position a aidé des grands prématurés à survivre. Regarde les chiffres, Karef, regarde.
Oh, la fréquence cardiaque remonte?
Oui. Et sa température est normale. Je crois que tu viens de mettre en marche le biorhythme de cette petite.
Juste en la tenant dans mes bras?
Enlève ta blouse.
Quoi? Non, vous, enlevez la vôtre.
Mais non, idiot, je te parle de la méthode kangourou. C'est plus efficace quand l'enfant est en contact avec la peau de sa mère. Là, elle va devoir se contenter de toi, mais... Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Mets-toi torse nu, vas-y!
Voilà, même dans Grey's Anatomy, on s'intéresse à la science et aux connaissances, par exemple, sur le peau à peau, Bernard Andrieux.
Oui, c'est une vulgarisation pratique et concrète de cette théorie du peau à peau.
C'est ça. Il y a beaucoup de choses sur les bébés, hein, effectivement, dans ce domaine du toucher, Sébastien Boller. Hein.
Oui, c'est pratiqué depuis longtemps. On se doutait des effets depuis un certain temps. Il commence à y avoir des études randomisées, des études qu'on appelle Cochrane. C'est des compilations de plusieurs études qui confirment qu'il y a un effet quand même sur la prise de poids hein, du prématuré avec la méthode kangourou. Peau à peau, comme ça en posture semi-allongée, et une probabilité de survie qui augmente et des arrêts respiratoires moins fréquents aussi. Donc la prise de poids rejoint l'idée qui était d'ailleurs présente grâce à Jacques Fischer dans le dossier qui me disait que le toucher est une alimentation, au même titre que la nourriture, hein, ce que disait Arlo aussi.
Jacques Fischer,
oui, c'est
sur
ça,
les bébés.
Ah, sur les bébés Oui, c'est très important sur les bébés, puisque en fait, j'ai eu écho des premiers travaux qui ont eu lieu sur les bébés, c'était par rapport aux prématurés. En fait, au départ, on évitait de les toucher. On pensait qu'ils se développeraient pas, ils développeraient des germes, au contraire. Et en fait, on s'est rendu compte que les bébés survivaient davantage lorsqu'on les touchait.
On a tout fait à l'envers, au départ.
On a tout fait à l'envers. Oui. Et puis, c'est grâce à un chercheur en Floride, je crois, qui a osé toucher des prématurés. Et puis, il a constaté qu'ils prenaient du poids et ils survivaient, alors que les autres avaient une espérance de vie beaucoup plus faible.
On en a parlé avec vous, Bernard.
Oui, sur l'histoire des prématurés.
Ouais. Et on pense que ça passe par l'angoisse, en fait, parce que cet effet existe aussi chez les adultes. Tiffany Field à Miami, qui est montré d'abord chez les prématurés, puis ensuite chez les adultes, qui a une baisse du cortisol. Il y a un effet anxiolytique vraiment au fait d'être touché qui vient du fait que l'être humain, quand il se sent en danger, il associe ça au fait d'être isolé, parce que les chances de survie, c'est le groupe hein, pour l'humain. Donc tout signal et qui nous prouve que le groupe est là, que quelqu'un est là, fait baisser automatiquement l'angoisse, et ça se voit aussi chez les cancéreux.
C'est un des problèmes à propos de l'isolement sensoriel en prison. Je veux dire, c'est pareil dans les EHPAD, c'est pareil dans les prisons, toutes les institutions qui laissent l'individu tout seul, sans contact tactile, ça pose d'énormes problèmes quant au développement de la dépression.
Suzanne nous dit, en tant que sage-femme, je propose régulièrement que les conjoints aident leur compagne à gérer les contractions de début de travail, mais aussi pendant la grossesse, par le toucher, le massage, l'effleurage.
Ben, ça, voilà, c'est tout à fait vérifié expérimentalement. Ça n'a pas été fait dans des contextes d'accouchement, mais des dispositifs expérimentaux, vous savez, où on peut mesurer les réactions d'angoisse ou d'appréhension que peuvent avoir des gens quand on leur annonce qu'il va y avoir un choc électrique. Alors, je vous rassure, c'est pas des chocs très douloureux, mais automatiquement, il y a des réactions d'angoisse qui se mettent en marche. Et dans ces expériences, alors, la femme ou l'homme peut prendre la main de son conjoint. Et on voit que l'attente de choc électrique ne donne pas du tout la même perception subjective de la douleur. Il y a un effet apaisant. Et même si c'est un inconnu, donc toute présence tactile automatiquement joue un rôle de tampon vraiment qui absorbe les chocs de stress.
Voilà, l'anxiété et la douleur par exemple dans cet aspect guérison hein, du toucher qui est extrêmement important. Dans ce livre « Malade encore vivant » aux éditions Le Murmure, Bernard Andrieux, un petit livre que vous publiez, vous parlez justement de cette empreinte, hein, vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, l'empreinte du corps, cette mémoire aussi. Hein.
Oui, cette mémoire du corps, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans la maladie chronique que les patients dont nous parlons dans le livre, ce sont des gens qui sont dépassés justement par l'activité de leur corps vivant, et ils témoignent du fait que finalement les croyances et représentations qu'ils avaient dans leur conscience de qu'est-ce que c'était leur corps vivant, bien ça suffit pas pour contenir ça. Et donc justement l'expérience du toucher, comme on le disait, ça permet d'apaiser, notamment dans l'accompagnement. Il faut toujours effectivement, les malades se plaignent d'être souvent seuls par rapport à cette expérience-là, ce décalage.
Oui, il faut même rajouter dans le cadre de l'angoisse que, en fait, c'est un autre outil, le toucher, lorsque, justement, en ces moments difficiles, lorsqu'on assiste à quelque chose de grave, par exemple, un attentat ou autre, les personnes qui ont subi ce choc, en fait, ça sert à rien de leur parler, ou en tout cas de leur expliquer ce qui s'est passé. Souvent, c'est le toucher qui permet de réduire l'angoisse et l'incompréhension.
Ludovic nous dit ceci. Que penser de cette sensation d'être touché lorsqu'un être cher approche sa main avant même que la main n'ait vraiment été en contact avec la peau?
Oui, alors en fait, il y a des travaux sur l'effleurement et puis on l'associe aussi à l'effet Midas. En fait, on associe l'effet Midas, vous savez.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, en référence à ce roi grec qui touchait, qui avait demandé à Dionysos, puisqu'on parlait de Dionysos tout à l'heure, qui avait demandé à Dionysos de pouvoir tout transformer tout en or. Et en fait, malheureusement pour lui, ensuite, il en a beaucoup souffert, puisqu'effectivement, il ne pouvait plus s'alimenter. Donc, l'effet Midas de tout transformer en or, en fait, on l'a associé. Vous savez, les scientifiques aiment bien donner un nom mythologique pour valoriser une recherche. Et donc, l'effet Midas, c'est l'effet du toucher et surtout du fait d'effleurer. Et les serveurs, par exemple, savent bien qu'en effleurant une personne, on peut avoir davantage d'effets lors d'une commande, par exemple, ou lors d'une suggestion pour une commande.
Un témoignage de Sophie, j'ai fait une expérience surprenante. Quand les choristes se touchent juste du dos, la main, l'ensemble et la sonorité du chœur est beaucoup plus cohérent. Ça marche à chaque fois. Sébastien Moller. Chanter à l'unisson, par exemple, quand ils se touchent vraiment physiquement le dos avec le dos de la main.
Je pense qu'il y a une sensibilité. Merleau-Ponty a développé ça autour du concept d'esthésiologie. Hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a une sorte de préconscience tactile. Hein, qui s'effectue, que ce soit dans l'intercorporéité ou en groupe. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un pressentiment et un effet de groupe qui fait qu'il y a le toucher physique, il y a aussi le fait d'être ensemble, de faire corps.
Alors c'est intéressant que cette personne parle du dos de la main,
oui.
Parce que les fibres tactiles de type CT sont effectivement connectées au dos de la main, parce qu'il y a des poils sur le dos de la main, et c'est la peau pileuse qui est garnie en fibres CT. Et paume de la main n'est pas garnie de fibres CT, c'est une autre forme de toucher, c'est beaucoup moins affectif. Les caresses sont efficaces sur toute la peau pileuse, donc ils ont retrouvé ça avec leur cœur de chanteur, c'est magnifique.
Ouais. Mais voilà, les neurosciences qui viennent valider au fond cette observation de notre auditrice. Gérer les relations conflictuelles, par exemple, ça aussi, ça fait partie de vos travaux, Jacques Fischer-Lecoux, dans les effets sociaux du toucher.
Alors oui, ça c'est une application que l'on peut faire du toucher. Elle est même très importante puisqu'on peut apaiser quelqu'un en le touchant. Parfois, il est préférable que de toucher quelqu'un plutôt que de lui parler. Parfois, souvent, vous avez remarqué que dans situation de conflit, on parle à quelqu'un puis on exacerbe le conflit. Le simple fait de toucher, en fait, signifie à l'autre une certaine proximité, une certaine empathie, et en fait diminue évidemment le conflit. Et on l'a testé auprès de groupes en conflit, donc de négociateurs qui avaient pour tâche de simuler des négociations, et les médiateurs avaient pour tâche, dans certaines conditions, de toucher les négociateurs, et dans d'autres situations, de ne pas les toucher. Et on observait.
On se souvient de la fameuse poignée de main entre Arafat,
voilà. Voilà.
Clinton.
Et en fait, en touchant, on diminue on augmente la motivation et l'encouragement à l'accord, en fait.
Merci beaucoup à tous les trois. On a encore plein de choses à se dire sur le toucher. Je renvoie nos auditeurs au dernier numéro de Cerveau et Psycho, la force du toucher. C'est dans les kiosques avec cette nouvelle formule: aimer, soigner et communiquer. Toucher, se soigner par le corps, c'est aux belles lettres. On doit pouvoir trouver le livre encore,
tout
Bernard
à fait.
Andrieux.
Oui.
Et puis plus récemment, Malade encore vivant aux éditions Le Murmure. Et puis je vous signale qu'en mars, les 17 et 18 mars prochains, à la Cité des Sciences, dans le cadre d'un colloque de la Semaine du Cerveau, il y aura justement un rendez-vous sur le toucher. Toucher pour apprendre, toucher pour communiquer. En partenariat avec Universcience. Fabrice Rouel, bonjour.
Bonjour, je suis très touché que vous me passiez la parole.
Mais j'imagine, affaire sensible dans un instant.
Aujourd'hui, le nom de la France à l'invasion de l'Irak en 2003. Vous vous souvenez de Dominique de Villepin, son discours à l'ONU. Son conseiller principal à l'époque, c'était Bruno Le Maire. Le Bruno Le Maire que nous connaissons aujourd'hui et qui est notre invité.
A tout à l'heure, après les infos.